Ah, quelle joie, quel privilège de vivre ensemble ce baptême aujourd'hui. J'ai un message, j'ai trois petites parties de prédication qui vont être entrecoupées de baptême ce matin. Quelle bénédiction pour moi de vivre ce moment de joie et de célébration. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Choix de vie ». Ces quatre personnes-là ont fait un choix de vie. Ils ont choisi la vie. Et aujourd'hui, d'ici la fin de la réunion aussi, je vais te lancer une invitation à toi qui es dans ce lieu. Tu n'es pas seulement spectateur d'un spectacle, mais tu vas être interpellé ce matin à faire un choix dans ta propre vie, à faire le choix de la vie, de choisir Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, la première partie de mon court message, c'est pourquoi le baptême? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se rassemble aujourd'hui afin de vivre ce baptême d'eau? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment important que nous puissions vivre un baptême aujourd'hui ensemble comme Église? Et j'aimerais te dire que la réponse est oui. C'est important. C'est nécessaire. C'est central. C'est important dans la vie chrétienne, le baptême d'eau. Le mot grec pour le mot baptême, c'est le mot baptizo, qui veut dire plonger complètement ou submerger. C'était le mot qui était utilisé lorsqu'on prenait un tissu et qu'on le trempait dans une teinture pour lui donner de la couleur. D'accord? C'était aussi le mot qu'on donnait lorsqu'un bateau faisait naufrage. Il y a personne qui va faire naufrage ce matin, soyez-en rassurés. Mais on voit cette image-là vraiment d'être submergé, d'être complètement immergé sous l'eau. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait des baptêmes par immersion. Vous allez voir dans un instant, ceux qui n'avaient jamais vu ça, c'est formidable. On va noyer les gens pendant 5 secondes. Ils vont être sous l'eau pendant quelques instants. Et je vous explique justement dans quelques minutes, ça représente quoi? C'est puissant le baptême d'eau. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez vu plusieurs baptêmes. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous rappeler à quel point c'est beau et puissant que le baptême d'eau, et on va voir ensemble dans un instant pourquoi. Tout d'abord, c'est parce que c'est un geste d'obéissance. Vous connaissez ce texte dans Matthieu 28 à partir du verset 16. Jésus est alors mort à la croix, il est ressuscité et là, il apparaît à ses disciples pour la dernière fois, juste avant de monter au ciel. On appelle ça l'ascension. Juste avant qu'il monte au ciel, il va donner ses dernières paroles. Et voici ce qu'il va dire. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Littéralement, dans les dernières paroles de Jésus sur cette terre, il nous a confié de baptiser les gens, qu'on puisse baptiser les personnes, et on va voir pourquoi dans quelques instants. Marc 16, 15 nous dit, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ici, on voit que la foi en Jésus et le baptême d'eau, le baptême, sont indissociables. Ça fait partie de la vie de tout chrétien, de toute personne qui croit en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, La suite logique des événements, c'est de te faire baptiser. C'est un peu comme le beurre de peanut et la confiture de fraises. On ne peut pas les séparer. Y a-t-il d'autres fans comme moi de ces deux éléments? Ça va bien ensemble. Il semble que ça marche. Hey, c'est vraiment indissociable, bien sûr. C'est un peu comme un jeune enfant avec son doudou ou avec son toutou. Vous savez, ceux qui ont des enfants, certains de nos enfants ont une tendance à aimer un toutou ou une doudou plus que tout le reste dans le monde. Et tant qu'ils l'ont dans leurs mains, tout va bien. Mais si tu leur enlèves, c'est la crise, ça ne marche plus, c'est indissociable. D'accord? Combien ont des enfants comme ça ou ont déjà eu un enfant comme ça? Combien vous êtes vous-même comme ça encore, avec votre doudou le soir sur le sofa, indissociable comme ça? La foi et le baptême, ça va ensemble. Si on se dit chrétien, si on croit en Jésus-Christ et on croit à son enseignement, on doit se faire baptiser à un moment ou à un autre. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est un peu comme un Gino et sa Camaro. Je sais, c'est profond ce matin. C'est de la grosse théologie profonde. Je le sais, je sais, je sais. C'est indissociable. Ça va ensemble, d'accord? C'est un peu comme Pierre et Loulou. Ça, c'est un insight pour ceux qui sont ici dans cette église. C'est un couple de l'église qu'on aime beaucoup, Pierre et Louise. Et ils sont indissociables, bien sûr. Et le baptême d'eau, c'est un geste de foi, d'obéissance. Jésus nous demande de nous faire baptiser. C'est aussi quelque chose qui prend place au début de notre marche chrétienne. Oui, amen, amen, amen. Si on va dans Acte 2, on voit un autre texte clé et puissant de la parole de Dieu. C'est le début de l'Église, c'est la première prédication de l'Église. Dans Acte 2, c'est après la Pentecôte, c'est Pierre qui prêche. Et voici ce qui prend place au verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Ils sont touchés par le message. Ils demandent à l'homme de Dieu, « Je fais quoi? Ça m'a touché ce que tu as prêché. Le message de Jésus m'interpelle, me percute. Je fais quoi maintenant? » Et voici la réponse. Pierre leur dit, « Changez d'attitude. » D'autres textes disent, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera jusqu'à Drummondville en 2022. » C'est écrit ça, regardez dans votre Bible, c'est écrit ça, là. Avez-vous vu? Drummondville, c'est écrit dans la Bible. Verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. » Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc, je ne sais pas si vous visualisez, mais l'Église est née avec un baptême d'eau. Méchant baptême d'eau à part de ça. 3000 personnes, on en a 4 aujourd'hui. Imaginez 3000 baptêmes, les apôtres devaient avoir les épaules un peu raquées. Hein? Rendu au 1267e, là. OK. Ah oui, messieurs, vite, hein? Wouh! Ben, c'était quelque chose. C'était un début d'église formidable. 3000 personnes qui ont reçu Jésus. Et Pierre leur dit, quoi faire quand tu deviens chrétien? Tu te fais baptiser. Tu te fais baptiser. Tu dis publiquement, moi, là, j'appartiens à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. On fait ça au début de la vie chrétienne. On ne fait pas ça quand on a tout compris la Bible. Parce que ça peut être long de tout comprendre la Bible. D'accord? Et je ne me serais pas fait baptiser encore. D'accord? Et vous non plus, probablement. Sauf exception rare, peut-être. Mais on fait ça au début de la vie chrétienne. C'est un geste de foi. C'est un geste puissant. Un geste où on s'affirme, où on s'affiche, qu'on soit gêné ou pas gêné. Peu importe notre âge, peu importe notre arrière-plan, peu importe ce que les gens autour de nous pensent de ça. Ça, c'est important. Peu importe ce que les gens pensent. Il y a des gens qui, quand ils se font baptiser, quand ils sortent de l'eau, ils se font battre ou persécuter ou renier par leur famille. Et ça arrive au Québec, mais même partout dans le monde, bien sûr. On se fait baptiser, c'est une obéissance envers Dieu. Ça va de pair avec la foi. Ça se fait au début de la vie chrétienne. Je termine avec ceci dans ma première partie de prédication. C'est un symbole qui est puissant. C'est un symbole qui est puissant. Dans Colossiens 2:8, ça dit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Le baptême d'eau, c'est un symbole puissant. C'est un symbole qui est fort. Premièrement, on s'associe à Jésus. Sa mort, sa résurrection. Vous allez voir dans un instant, on va sous l'eau, ça représente la mort de Jésus. On s'associe à Jésus. Lorsqu'on ressort de l'eau, on s'associe à la résurrection et à la vie de Jésus. C'est aussi un symbole physique, visible, de ce qui a pris place dans notre cœur et dans notre vie. Nous mourons à notre ancienne vie sans Jésus. Nous mourons à une vie où nous étions esclaves du péché et destinés à la mort, mais nous ressortons de l'eau parce que Jésus nous a pardonnés, parce que Jésus nous a lavés, transformés, qu'il nous a redonné la vie éternelle. C'est un symbole puissant. Ça explique ce qui se passe en dedans. C'est une image qui vaut mille mots. C'est une image formidable. Et aujourd'hui, dans un instant, nous allons voir justement ces premiers baptêmes. Trêve de discours un instant. C'est le temps pour notre premier baptême. J'ai invité Éric, notre baptiseur officiel, à s'approcher. Es-tu là, Éric? Oui. J'en sais là, sinon il a fallu que j'aille dans l'eau. Et j'ai invité Guédalia à s'approcher également. Dans la piscine, on me dit qu'elle était extrêmement froide. Non. Non, non, non. Elle est chauffée, ne vous inquiétez pas. Donc, tu peux venir, Guédalia. Et Guédalia a écrit un témoignage que je vais lire pendant qu'ils se préparent les deux. Ça va apparaître aussi à l'écran. Guédalia est une jeune musicienne qui a grandi dans une famille chrétienne. Dieu a toujours été présent dans son cœur et dans sa vie. Elle a toujours été chrétienne, mais sans s'impliquer plus que ça dans sa foi. Elle allait à l'église et ça s'arrêtait là. C'est vers 14 ans qu'elle a pris conscience de l'impact et de l'importance que le Seigneur a dans sa vie et qu'elle avait besoin de lui. C'était un dimanche au mois de novembre, à l'âge de ses 15 ans, qu'elle a décidé de dire oui au Seigneur. Elle voulait qu'il fasse partie intégrante de sa vie. De plus en plus, elle voit la main de Dieu agir dans sa vie. Il lui a permis d'avoir sa résidence permanente au Canada, d'entrer dans l'académie où elle voulait aller. Et d'être au conservatoire. À travers tout ça, elle a vu ses œuvres dans sa vie et cela l'a appris à faire confiance, à lui faire confiance, puis à réaliser à quel point elle avait besoin de lui. Aujourd'hui, Guédalia se fait baptiser pour déclarer que Jésus est entré dans sa vie et qu'il en fait partie. Elle veut le suivre et se laisser guider par lui. On applaudit tout le monde! Woo-hoo-hoo-hoo! Félicitations, Guédalia. À la toute fin, on va les réinviter à l'avant pour prendre un temps pour les féliciter aussi. Je vais maintenant inviter Mme André Cléroux à s'approcher. Et je vais avoir besoin d'un peu de lumière pour être capable de lire. Merci. André est la plus jeune fille d'une famille de 11 enfants. Elle a grandi dans la pauvreté auprès d'un père bipolaire et d'une mère très contrôlante. Cet environnement toxique l'a plongée à l'âge de 17 ans dans une sévère dépression qui a duré de nombreuses années. Sa mère l'a élevée dans la religion catholique, mais a été attachée à l'occultisme. André suivait sa mère à l'église, mais surtout par obligation. Elle croyait en Dieu et le cherchait, mais elle semblait bien loin. Sa recherche spirituelle l'a poussée à s'aventurer dans les sciences occultes, jusqu'à ce qu'un jour, elle réalise le mal que ça lui faisait. Elle avait besoin de délivrance, mais ne savait pas comment prier et n'avait personne qui pouvait l'aider. C'est finalement en 2019 qu'une personne lui a parlé de Jésus. Elle a prié et demandé pardon pour ses péchés et a découvert l'amour de Jésus pour elle. Aujourd'hui, André se fait baptiser pour lui appartenir entièrement. Elle se sait aimée par son Dieu et désire qu'il prenne de plus en plus de place dans sa vie. tellement fier de nous baptiser. Je vais maintenant arriver à la deuxième partie de mon message. On garde le dessert pour la fin, nos deux derniers baptisés pour dans quelques minutes. Et comme j'ai dit à la fin, on va vraiment accueillir tout le monde, féliciter tout le monde. Alors, Eric, pendant les prochaines minutes, on va partir les bulles. Donc, merci d'être là, Eric, vraiment, très, très apprécié. Vous aviez vu dans les deux témoignages, les deux premières baptisées, hein, je relève deux phrases clés. Il y a Dalia qui dit « Elle a décidé de dire oui au Seigneur. » Ce matin, tu es dans ce lieu et dans un instant, je vais t'inviter à faire comme elle, à dire oui au Seigneur. Et André, qui a dit « C'est finalement en 2019 qu'une personne lui a parlé de Jésus. » Mon deuxième point ce matin, ma deuxième partie, est la suivante. « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Romains 10, verset 12. « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom de Jésus sera sauvée. » Et ce matin, qui que tu sois, peu importe d'où tu viens, si tu fais appel à Jésus, il va t'accueillir et tu seras sauvé. Dans un instant, je vais expliquer ça veut dire quoi être sauvé. Verset 14, « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-il si personne n'est envoyé, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? » Aujourd'hui, je veux faire un rappel solennel, important, à chaque chrétien, à chaque croyant dans ce lieu. Nous sommes appelés à ouvrir la bouche pour Jésus. Nous sommes appelés à ouvrir la bouche pour Jésus. Ce matin, c'est tellement important. On ne verrait pas ces baptêmes d'eau-là à moins que quelqu'un, en quelque part, ait osé parler, ait osé ouvrir la bouche et parler de l'amour, parler de l'évangile, du message, du salut. Si tu es ici dans ce lieu ce matin, tu es chrétien, tu aimes le Seigneur, mais que tu ne parles pas ou très peu de Jésus, ce matin, je prie que ce court moment de prédication puisse te défier, puisse t'amener à dire « oui, c'est vrai, il faut que je retrouve cette passion pour communiquer la grâce, l'évangile, l'amour de Jésus. » Vous savez, ça ne nous appartient pas de sauver les gens, mais ça nous appartient clairement de parler de Jésus, d'ouvrir notre bouche pour le Seigneur. Et ma prière pendant que je préparais ce message aujourd'hui, c'était que chacun d'entre nous, chaque personne dans ce lieu, que nous puissions reprendre cet engagement, renouveler à dire « Jésus, je vais ouvrir ma bouche pour toi. Jésus, je vais te faire connaître aux gens qui m'entourent. Tous les jeunes qui sont dans ce lieu, il faut que le Seigneur te touche pour que tu parles de Jésus. Les jeunes ont besoin de toi. Tu n'es pas là à attendre qu'il se passe de quoi. » Peu importe ton âge, tu es appelé à répondre à ce message. Les adolescents dans ce lieu, ceux qui vont à l'école secondaire ou au cégep, peu importe, tu es appelé à ouvrir ta bouche pour Jésus. Les gens qui t'entourent ont besoin de cette lumière. Les gens qui t'entourent ont besoin de ce message. Les gens à votre travail, les gens qui sont autour de vous, qui habitent sur votre rue ou peu importe, nous sommes appelés à parler de lui, à parler de son amour, à oser parler. C'est un peu comme certains conflits de couple où madame dit à monsieur « Hey, t'as pas sorti les poubelles? » Et lui de lui répondre « Personne me l'a dit. Je le savais pas. Personne me l'a dit. Tu me l'as pas dit. » Et là, bien sûr, madame de répondre « Pourquoi j'aurais à te le dire? Il faut bien que tu saches c'est quel jour qu'on sort les poubelles. » Hein? Oh, je sais qu'il n'y a personne ici qui a jamais vu que ça. C'est une situation très fictive, anecdotique, qu'on voit dans les livres très rares d'archéologie contemporaine, moderne. Éric, il rit fort, je trouve. Je dis ça de même, mais je trouve qu'Éric, il rit pas mal fort à cette joke-là. Je ne sais pas parce que si t'es proche de moi ou quoi, là. Mais le point est que, puis je fais une blague, bien sûr, mais le point est que les gens ne peuvent pas recevoir Jésus s'il n'y a personne qui leur dise, s'il n'y a personne qui leur parle. Comment tu veux recevoir Jésus? C'est ça qu'il disait le texte. Comment tu veux recevoir Jésus? Comment recevront-ils Jésus s'ils n'en entendent pas parler? Vous là, ce matin, nous avons cette responsabilité-là de parler, d'oser parler. Et peu importe la réaction des gens, c'est sûr qu'il faut le faire. Je ne prêcherai pas pendant 4 heures là-dessus, mais bien sûr, ça prend de la sagesse quand on parle de Jésus. Ça prend de l'amour quand on parle de Jésus, etc. On peut nuancer, mais l'idée que je veux que tu retiennes ce matin, c'est ouvre ta bouche pour lui. Ose parler de lui. Puis tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu vas voir les vies, les familles qui vont être transformées. Si tu fais juste oser ouvrir ta bouche pour le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un grand amen ce matin? On va maintenant accueillir nos deux prochaines et dernières baptisées. Je vais inviter Madame Huguette Rangée à s'approcher, alors que je vais lire une portion de son témoignage ce matin. Après une enfance difficile, Huguette s'est mariée alors qu'elle n'avait que 15 ans. Malheureusement, son mariage s'est terminé par un divorce, la laissant seule avec 5 enfants. Quelques années auparavant, son beau-frère, pasteur, lui avait lu un passage biblique qui disait que Dieu la connaissait avant la fondation du monde. Elle fut alors tellement touchée qu'elle comprit son besoin de chercher Dieu. C'est bien des années plus tard qu'elle a découvert l'Église Nouvelle Vie de Drummondville et au début 2022. Huguette a débuté le cours sur les fondements de la vie chrétienne, l'ABC de la foi. Au travers des partages avec son animateur, elle a ouvert son cœur et a accepté Jésus, lui disant « Oui, viens dans ma vie ». Depuis, elle sent que ses yeux se sont ouverts. Elle est plus patiente et verse souvent des larmes de reconnaissance en louant ou en lisant la Bible. Aujourd'hui, Huguette se fait baptiser car elle veut grandir dans la foi. Applaudissez encore! Bravo, bravo! Yes! Merci pour votre message. Félicitations. Je vais maintenant inviter Mme Annie Trépanier. Annie a vécu son enfance avec un sentiment de rejet. Il lui arrivait souvent de penser ne pas avoir sa place dans ce monde. Il lui est d'ailleurs arrivé d'avoir des pensées suicidaires. Un jour, elle a rencontré une personne bien intentionnée qui lui a fait prendre conscience de la distinction entre le bien et le mal. Annie a malgré tout eu une phase où elle s'est laissée dépérir. Étant donné qu'elle ne mangeait plus, ne dormait plus et ne se lavait plus, elle fut hospitalisée. À sa sortie de l'hôpital, ses parents l'ont aidée à reprendre sa vie en main. Durant cette épreuve, Dieu était en train de préparer le chemin pour elle. Annie s'est ensuite procuré une Bible et s'est instantanément mise à sa lecture. Elle a essayé par ses propres forces de mettre de l'ordre dans sa vie, mais elle a toujours rencontré des obstacles. C'est en suivant les cours de l'ABC de la foi, de croissance et « Comprends-tu ce que tu lis? » qu'elle a vu sa vie changer et restaurée. Aujourd'hui, elle est reconnaissante pour ce que Jésus a fait en elle et pour elle. Elle a un logement sécurisé ainsi qu'un nouveau travail qu'elle aime. Elle se sent désormais à sa place et vit de plus en plus près de Jésus. Elle désire maintenant que ce soit Jésus qui conduise sa vie. Aujourd'hui, Annie se fait baptiser pour obéir à la parole de Dieu. Elle veut le servir et l'honorer pour le restant de son existence, car elle est reconnaissante d'avoir été sauvée et délivrée de sa vie passée. Fin du message, dans un instant, on va les réinviter les 4 devant, on va les féliciter encore une fois. Et je termine avec la dernière partie de mon message ce matin. On a vu ensemble pourquoi le baptême d'eau, c'est important, c'est précieux, c'est biblique, qu'on doit passer par là, ce que ça représente, le symbole et tout. On a aussi vu jusqu'à maintenant qu'il faut ouvrir notre bouche. Il faut, comme croyants, il faut que le Seigneur nous renouvelle, qu'il ranime le feu dans notre cœur et qu'on puisse oser parler de lui aux gens qui nous entourent. J'ai prié que le feu soit ranimé en nous. Et dernièrement, ce matin, je te pose la question, quelle sera ton empreinte sur la terre? Et cette semaine, il y a quelques événements qui ont pris place cette semaine. Tout d'abord, il y a eu le décès d'un grand joueur de hockey que vous connaissez, Guy Lafleur, qui nous a quittés cette semaine. Et ça a touché beaucoup de Québécois partout au Québec qui l'ont connu, qui l'ont vu jouer, qui l'ont vu aussi, qui s'identifiaient à lui par sa générosité. Et il nous a quittés cette semaine, il est parti. Et cette semaine aussi, il y avait une journée, le jour de la Terre, le 22 avril, c'était le jour de la Terre. Et bien sûr qu'on vit dans un monde où ce n'est pas évident, où ce n'est pas facile. On vit sur une planète qui est amochée. Vous n'êtes pas sans savoir que la pollution, les réchauffements climatiques, la déforestation, les animaux qui disparaissent carrément de la surface de la Terre, c'est extrêmement inquiétant tout ça. Et cette semaine, alors que je préparais ce message, j'étais vraiment saisi. J'avais un moment de réflexion profonde sur ma place sur Terre. Qu'est-ce que je vais laisser sur Terre? Combien de temps il me reste encore sur cette Terre? Et peut-être que certains vont me dire, c'est parce que tu es dans ta crise de la quarantaine, Pasteur David. Tu peux afficher la prochaine image. Dans ta crise de la quarantaine, Pasteur David. J'ai 39 ans. Et oui, ça se peut que je sois en profonde réflexion, en remise en question sur plein d'affaires, et je me demande, mais voyons, comment je peux compléter ma vie comme il faut? Relax, compléter ta vie. Non, je vous le dis, là, c'est des choses qui se passent dans ma tête. Et je me pose la question, quelle trace je veux laisser sur la terre? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est vraiment important? Si l'âge moyen du décès pour un homme au Québec, c'est environ 81 ans, tu sais, je suis à la moitié de ma vie à peu près, à moins que le Seigneur me reprenne avant, mais je suis à la moitié de ma vie. Qu'est-ce que je veux accomplir? Et ce matin, je veux t'emmener dans une réflexion un peu plus profonde qu'on n'a peut-être pas tous les jours en écoutant « Salut, bonjour » le matin, mais c'est le temps, c'est l'Église, c'est la place pour le faire. Je t'invite à te poser la question. Quelle trace tu vas laisser sur la terre? Quelle trace tu vas laisser dans la vie des gens qui t'entourent? Moi, alors que je réfléchissais, je me disais, oui, je veux faire certains projets, j'aimerais ça vivre certaines expériences, certains voyages, vivre des moments de qualité avec les gens qui me sont chers, les gens que j'aime, les gens qui sont proches de moi. Mais j'aimerais aussi que ma vie compte pour Jésus, pour le royaume de Dieu. J'aimerais aussi avoir un impact dans la vie des gens qui m'entourent. Avoir un impact dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils puissent entendre parler, qu'ils puissent découvrir ce Jésus extraordinaire que nous connaissons. Il y a un texte qui dit, c'est le dernier texte de la matinée dans Hébreux 9, 27. Ça dit, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? » Et on n'a pas 56 chances. Ce n'est pas Mario Bros ici. Là. On n'a pas 56 chances de vivre notre vie. On en a une. Et ce matin, je veux que tu te poses la question, est-ce que tu la vis à plein? Est-ce que tu vis ta vie pleinement? Est-ce que tu la vis pour Jésus? Est-ce que tu la vis pour Dieu? Est-ce que tu vas faire une différence dans les gens qui t'entourent? Et je sais que c'est une question profonde, mais c'est vraiment ma prière aujourd'hui. Ma prière que nous puissions être des gens dans cette Église. On vit notre vie avec un sens de destinée, avec un sens que moi, je vis ma vie de façon réfléchie, je veux vivre pour Dieu. Je veux que ma vie compte. Je veux que ma vie compte sur cette terre. Et ce matin, on a vu Guédalia qui a dit oui à Jésus. On a vu André qui, malgré des difficultés familiales, sa recherche spirituelle, a laissé Jésus entrer dans sa vie. On a vu Huguette également qui, après toutes sortes d'épreuves, difficiles, Annie également, toutes sortes d'épreuves difficiles qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie. Et en terminant ce matin, j'aurais deux invitations à faire. La première invitation, pendant qu'on joue tout doucement, serait pour des personnes dans ce lieu, vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie. Vous avez entendu parler peut-être de lui ce matin ou dans le passé, quelqu'un vous a déjà parlé de Jésus. Mais vous n'avez jamais pris cette décision personnelle. Comme Guédalia l'a fait à l'âge de 14 ans, à l'âge de 15 ans, cette décision de dire, « Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je reconnais que tu m'aimes, je reconnais que tu es vivant. Tu es mort à la croix pour que je sois pardonné de mes péchés. Tu es ressuscité. Tu vis aujourd'hui et je ne veux pas vivre une journée de plus sans me connecter à toi, sans te recevoir dans ma vie. » Et c'est une décision qui est personnelle. C'est une décision... personne ne peut te pousser à prendre cette décision-là. Ça doit être une réponse de ton cœur. Mais laisse-moi te dire, Jésus t'aime aujourd'hui. Jésus t'invite. T'invite à te connecter à lui. Et tout ce que tu as à faire, c'est dire, « Jésus, je crois en toi. Jésus, pardon pour mes manquements, mes péchés. Jésus, je place ma foi en toi. » Puis éventuellement, oui, peut-être que tu vas aller là, dans le baptême un jour. Mais ce matin, si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu aimerais profiter de ce moment, de cette célébration pour dire, « Jésus, oui, je veux te recevoir. Je ne comprends pas tout. J'ai encore des questions, mais je veux faire ce premier pas et te recevoir dans ma vie. » Donc, on peut fermer les yeux un instant, juste un moment de recueillement dans l'Église.